Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. Avec la production de Sylvain Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Alberto Fernández participera au Forum de Paris sur la paix. L'Argentine s'est abstenue à l'ONU pour enquêter sur les violations des droits de l'homme en Chine. Mais si, l'Argentine est une équipe prête à affronter n'importe qui. Le président Alberto Fernández participera au Forum de Paris sur la paix les 11 et 12 novembre à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. La réunion aura lieu avant le sommet du G20 qui se tiendra les 15 et 16 du mois prochain à Bali en Indonésie. Cette proposition s'inscrit dans la continuité de ce que Fernandez a proposé et qui a fait l'objet d'un accord lors de réunions en Europe en mars, puis au G7 en Allemagne et ensuite à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Macron a déclaré que, alors que la guerre en Ukraine met à l'épreuve notre système multilatéral, expose nos interdépendances et affaiblit nos systèmes énergétiques, alimentaires et économiques, nous devons plus que jamais renforcer notre cadre de gouvernance mondiale autour des valeurs d'unité et de solidarité. L'Argentine s'est abstenue lors du vote des Nations Unies à Genève visant à ouvrir le débat sur les violations des droits de l'homme commises par la Chine à l'encontre de la minorité musulmane ouïghour. Le projet, présenté par les États-Unis, a été rejeté par un bloc de 19 voix piloté par la Chine ainsi que par Cuba, la Bolivie, le Venezuela et la Mauritanie, entre autres pays. La position de Washington a reçu le soutien de l'Allemagne, de la France, de la Finlande et du Honduras, soit 17 voix au total. Pendant ce temps, l'Argentine, le Brésil, le Mexique et l'Inde se sont abstenus dans une position qui était soutenue par 11 pays. À l'exception du Honduras et du Paraguay, le reste de l'Amérique latine a opté pour s'abstenir de voter sur l'initiative américaine. Quant au discours à Genève, seuls Cuba et le Venezuela ont pris la parole pour soutenir la Chine et sanctionner la politique étrangère de Joe Biden. Le capitaine de l'équipe nationale argentine de foot, Lionel Messi, a souligné que l'équipe nationale argentine est en mesure de se battre avec n'importe qui pour le titre à la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'elle est très claire sur ce qu'il faut faire dans chaque rencontre. Messi a analysé que les difficultés d'une Coupe du Monde commencent dès la phase de groupe, comme nous l'avons vu en Russie, où le nôtre semblait accessible, et où nous avons fini par atteindre les huitièmes de finale seulement lors du troisième match contre le Nigeria, après avoir fait match nul avec l'Islande et perdu contre la Croatie. D'un autre côté, a-t-il dit, cette fois au Qatar, nous avons un groupe très difficile et nous en sommes conscients. Pour lui, il est très important de commencer par gagner le premier match contre l'Arabie Saoudite, car cela permettra d'avoir la tranquillité d'esprit et d'aborder le suivant avec le Mexique d'une manière différente. Mais le premier est essentiel, a-t-il souligné. Le Brésil repart pour un tour. 4 semaines supplémentaires de campagne, en attendant le deuxième tour le 30 octobre, où se départageront l'actuel président, Jair Bolsonaro, qui a obtenu 43% des voix, et l'ancien dirigeant syndical et deux fois président Lula da Silva, avec plus de 48% des suffrages. Une analyse de Hervé Théry, professeur à l'université de São Paulo, pour RFI.
Le comeback attendra. Lula rate son retour au pouvoir dès le premier tour de la présidentielle au Brésil. L'ex-dirigeant de gauche devra pour cela passer par un second tour contre le sortant Jair Bolsonaro. Un scrutin qui s'annonce peut-être plus compliqué que prévu. On va décrypter avec notre invité du jour.
Continue até a vitória final.
La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Message de Lula hier soir de sa voix rauque. À 76 ans, l'ex-dirigeant de gauche repart en campagne ce lundi dans la perspective du second tour de la présidentielle brésilienne. Le premier tour, hier, ne lui a pas offert cette victoire par chaos contre le sortant pourtant annoncé par les sondages. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Ce matin, ce sont donc deux visages que l'on retrouve à l'aine de la presse.
Oui, la une d'Extra, mais deux photos de Luiz Inácio Lula da Silva et Jair Bolsonaro face à face. Lula à gauche et Bolsonaro à droite, évidemment, leurs nez se touchent presque. De fait, leurs scores imprimés sur les photos sont très proches, plus que prévu en tout cas, 48% pour l'un, 43% pour l'autre. Après un vote du premier tour en tête-à-tête entre Lula et Bolsonaro, avec un rebondissement, les deux hommes arrivent au second tour, un second tour qui ne manquera pas d'émotion, écrit le journal. Car comme le note O Estado de Sao Paulo, Bolsonaro récolte plus de votes que prévu. Le quotidien reproduit lui aussi des photos des deux candidats, main levée en signe de victoire, mais Lula est cadré un peu en dessous de son adversaire. Car même si son score est plus important que celui du président sortant, le bolsonarisme montre sa force, écrit Folia de Sao Paulo, sous des photos cette fois de militants victorieux pour ceux de Jair Bolsonaro, stupéfaits, la bouche ouverte pour ceux de Lula, qui voyaient déjà leur champion élu au premier tour. En tout cas, le vote des électeurs du centre sera décisif le 30 octobre, prédit O Estado de Sao Paulo, dans ce qui est aujourd'hui un pays divisé, titre Estado de Minas, qui reproduit en une carte montrant clairement la ligne de fracture entre le nord et l'est acquis à Lula et le sud et l'ouest à Jair Bolsonaro.
Et dans le sud, justement, hier soir à Sao Paulo, du côté de ses soutiens, des soutiens de Lula, c'était un peu la soupe à la grimace. Reportage de notre envoyé spécial Arim Lipold.
À peine quelques centaines de sympathisants sont venus sur l'avenue Paulista pour célébrer une victoire qu'ils auraient souhaité plus importante, voire définitive. Jeanne, une militante du Parti des Travailleurs, ne cache pas sa déception.
J'ai des sentiments mitigés. C'est effrayant de voir que le noyau dur du bolsonarisme est beaucoup plus fort que ce qu'on a imaginé.
Alors, à qui la faute? Pour Alina, c'est la division de la gauche au Brésil.
Ce n'est pas la faute de la campagne, ni la faute de Lula. Je pense que c'est la faute de la gauche qui n'est pas unie. Et il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est menacé par un dictateur et un effroyable mouvement conservateur.
Il reste 4 semaines pour mobiliser les électeurs. Selon Jeanne, la militante du PT, le parti doit changer sa stratégie.
Il faut chercher le dialogue direct avec les gens et ne pas se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux et le soutien des grands artistes. Il faut mobiliser la base, s'appuyer sur les militants et faire du porte-à-porte, car le second tour est loin d'être joué.
Un avis partagé par Alexandre.
Ce résultat serré du premier tour fait peur. Il faut qu'on reste mobilisé, il faut travailler dur si on veut rester dans un pays démocratique.
Alexandre envisage même déjà une possible réélection de Jair Bolsonaro. Dans ce cas, dit-il, il pourrait quitter le pays. Arim Lipold, Sao Paulo, RFI.
Voilà, c'est loin d'être gagné, vous les avez entendus, hein, ces partisans de Lula. Hervé Théry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et professeur à l'université de Sao Paulo. On va décrypter ensemble ce premier tour. Donc, premier enseignement, peut-être, c'est finalement eh bien, que le bolsonarisme, comme on l'a dit, résiste. Le score de la présidentielle nous le prouve. Il y avait aussi des législatives, des élections de gouverneurs. On va y revenir un peu plus tard en détail. Mais voilà, ces différents scrutins nous prouvent que le bolsonarisme n'est pas une parenthèse, mais est bien ancré.
Oui, c'est ce dont les Brésiliens se rendent compte, comme un certain nombre de pays avant eux. Le trumpisme non plus n'a pas été barré. Orban est toujours là. Salvini est parti, mais il a été remplacé. Donc il y a pas mal de pays où on se rend compte qu'il y a 25-30% des gens qui sont ancrés dans une attitude curieuse, de déni de la réalité assez souvent et de foi dans des idées pour le moins étranges.
Oui, avec un mandat marqué par des polémiques, quasiment 700 000 morts du Covid, 52% de rejet, hein, d'opinions défavorables et pourtant eh bien, certains en font fi et votent pour Bolsonaro.
Oui. Ben oui, c'est 52% de rejet, ça laisse 48% pour les autres.
Avec un ancrage géographique assez précis, nous disait Christophe Paget d'ailleurs.
Oui, c'est en fait largement le sud depuis longtemps. Toute une discussion sur le centre-ouest, sur le sud-est dont on va parler, quand il dit que le vote va se jouer au centre, il va se jouer au centre politique, mais aussi au centre du pays. C'est l'État de São Paulo qui va être l'endroit où ça va se passer. Le nord amazonien et le nord-est qui sont acquis à Lula. Et entre les deux, ce qu'on oublie parfois, toutes les franges pionnières avec des gens qui marchent vers l'Amazonie, qui défrichent, qui sont contents de ne pas avoir de limites, de pouvoir être armés. Il y a tout un Far West brésilien qui, lui, est complètement acquis.
La déforestation de l'Amazonie qui a gagné de plus en plus sous le mandat de Bolsonaro. Est-ce que c'est véritablement une percée, une confirmation plutôt, devrais-je dire, du bolsonarisme? Ou bien alors, comme le disaient là les témoins que l'on a entendus dans le reportage d'Arim Lipold, une contre-performance de la gauche qui est partie en ordre dispersé pour cette élection présidentielle?
On n'en dispersait pas tellement, puisque la coalition de Lula, c'est 9 partis. Je crois qu'il a rassemblé tout le monde. Il n'y a pratiquement plus de troisième voie. Il y a 2 petits partis, ça a été mentionné, de petits candidats. Donc ils ont fait une très large alliance. Et je pense que cette grosse déception, c'est par rapport aux expectatives. Parce que 48,5 au premier tour, c'est pas si mal.
Et, mais ce n'est pas, comme je le disais, c'est victoire par chaos.
Ce n'est pas victoire par chaos. Et les bolsonaristes sont très contents par rapport à ce qu'on leur donnait. On leur donnait 35, ils ont 42, ils sont ravis. Donc ce n'est pas tellement une dynamique bolsonariste, comme on dit, mais plutôt une erreur d'appréciation.
Est-ce que la présence de Ciro Gomes, donc candidat de centre-gauche, 3% là, je crois, de vote hier, est-ce que ça a privé ou pas Lula de cette victoire au premier tour?
Il lui a manqué 1,5 point. Donc les 3,4 de Ciro et les 4,16 de Tebet qu'on oublie, qui elle va plutôt se reporter.
Troisième homme qui est une femme.
Voilà, c'est ça, et qui elle a déjà dit qu'elle soutenait Lula. Donc en fait, je pense qu'il ne va pas récupérer tout ça, mais en tout cas, ça fait largement de plus 1,5 et sûrement pas les 7 dont a besoin Bolsonaro. Donc si on fait les calculs froidement.
Parce que, vous nous dites, elle soutient donc Lula, elle se rallie à lui. Mais les électeurs, est-ce qu'automatiquement ce report de voix pour ces deux candidats va se faire sur Lula? Alors,
dans les études qu'on a faites, mais on a de bonnes raisons d'être prudents maintenant, on voyait que ça se ventilait. Les électeurs de Ciro Gomes, pas tellement, mais ceux de Simone Tebet, massivement, iraient plutôt à Lula parce qu'elle vient du MDB, qui est un parti. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui fait qu'il y a quand même une grosse majorité qui vont aller. Et puis il y a une inconnue des 20% d'abstentionnistes quand même. Ça fait quand même un réservoir de gens dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire.
Quelles ont été les erreurs de Lula à ne pas reproduire dans cette longue campagne d'entre-deux tours qui pourrait justement permettre de séduire notamment ces abstentionnistes?
Alors peut-être pas beaucoup de projets, on ne sait pas ce qu'il va faire en fait.
C'est plutôt misé sur l'anti-bolsonarisme finalement.
Oui, et sur la nostalgie du bon temps où il était au pouvoir. Donc je l'ai vu il y a un mois, j'étais à 3 mètres de lui, c'était quelques jours après que je suis arrivé dans le bâtiment où j'enseigne. Donc c'était une courtoisie de sa part.
Mais c'était une époque extrêmement différente quand il était au pouvoir.
Bien sûr, ça n'a rien à voir, c'était un boom, une époque de bonanza économique, etc. Donc il ne suffit pas de dire que c'était le bon temps quand j'étais là. Il faudrait un peu quelques propositions. Et en particulier, il perd un peu la classe moyenne et moyenne supérieure qui a besoin qu'on lui dise ce qui va se passer. Et c'est un peu celle-là qu'il a perdue.
Son colistier, plutôt centre-droite, pardon.
Franchement de droite.
Franchement de droite, même, disons-le. Ça peut rassurer, ça peut convaincre.
Ça a aidé, mais c'est quand même un très très large arc. Hein. Ça va de l'extrême gauche à des gens de la droite classique qui s'est effondré, soit dit en passant. La droite classique, c'est un peu Pécresse ou les autres. Hein. On passe d'une situation dominante à presque rien. Ce sera pour la première fois depuis 20 ans, le PSDB n'a pas de candidat au deuxième tour dans l'État de São Paulo qui fait 27 millions d'électeurs quand même.
Vous disiez véritablement ça va se jouer au centre politique. Je reviens encore sur cette idée. Avec quoi, avec quels arguments on va aller chercher quand on s'appelle Lula ces électeurs?
Il faudrait leur dire qu'en quoi ils vont vivre mieux, parce qu'ils ont vu monter, sous son mandat et celui avorté de Dilma Rousseff, il y a eu des choses faites pour les très pauvres. Et les gens qui sont moyennement riches, qui voient des choses données aux pauvres et qui, eux, ne récupèrent rien, c'est malheureusement ça, on le sait tragiquement en Europe, le terreau du fascisme. Quand on voit que les pauvres s'enrichissent et que vous, qui êtes classe moyenne, il y a, juste pour vous donner une donnée, il y a 11% des foyers fiscaux brésiliens qui payent l'impôt. Les très riches ne payent pas parce qu'ils ont de bons avocats, les pauvres ne payent pas, et donc presque tout est porté par la classe moyenne, qui n'a pas gagné grand-chose au lulisme, donc à qui il faudrait proposer des choses.
Et qui a beaucoup souffert, notamment ces dernières années, avec le Covid. On le dit, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus serré, ce second tour là qui s'annonce le 30 octobre.
Si on regarde la mathématique, non, c'est quand même reste assez probable qu'il gagne, mais par contre, l'après... Parce que je pense qu'on a gagné un mois de tranquillité, parce que les bolsonaristes n'ont pas de raison de faire des échauffourées maintenant.
Il avait menacé, hein, Jair
Bolsonaro. Oui, mais comme ils pensent pouvoir gagner dans les urnes, ils vont se calmer, je pense. Hein, je peux me tromper. Par contre, après l'élection, s'ils la perdent...
Voilà, alors, il y aura cet inconnu-là. Et si jamais Lula, lui, gagne, autre inconnu, c'est le Congrès. On votait aussi hier, je le disais, dominé à droite, ce Congrès. Lula, comment est-ce qu'il va négocier des alliances, lui, de gauche, avec un Congrès de droite?
Pour vous répondre un seul mot, difficilement. Non, parce qu'effectivement, 8 sénateurs du parti extrémiste de Bolsonaro, c'est très lourd, parce qu'ils peuvent, par exemple, faire l'impeachment des juges de la Cour suprême. Ça, c'est une très grande nouveauté. La Chambre des députés, avec tous les départements, tous les partis du centre, qu'on appelle le Centrão, qui est le centre mou, ils sont toujours prêts à se vendre au plus fort propose. Donc si Lula gagne, ils le rallieront. Ils l'ont déjà fait au mandat précédent.
Le 8 octobre, il y a 55 ans, Ernesto Che Guevara était arrêté en Bolivie, puis exécuté un jour plus tard, le 9 octobre 1967. En avril 1964, l'équipe de l'émission Point, conduite par le journaliste Jean Dumur, rencontre Ernesto Che Guevara à l'hôtel Intercontinental à Genève. Il occupe alors le poste de ministre de l'Industrie de Cuba. Dans ce reportage, ainsi que dans un autre de 1963, il s'exprime en français, langue que sa mère lui a enseignée étant enfant.
Desesperada, y escucho entonces la tierra llora, la era está pariendo un corazón.
D'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans l'attitude des États-Unis à l'endroit de Cuba?
Peut-être. Je vous dis que c'est difficile à vous répondre directement. En tout cas, nous ne fixons pas notre position en écoutant ou en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous faisons notre politique internationale. Et naturellement, nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que c'est notre ennemi, il est près de nous, il est très fort. Aujourd'hui, dans ces derniers jours, il y a quelques voix américaines, on les connaît, le sénateur Fulbright, par exemple, qui a parlé un langage absolument différent. Mais immédiatement, M. Rusk, M. Thomas Mann ont parlé dans le langage habituel. Et nous ne pouvons pas savoir si vraiment l'attitude de Fulbright, par exemple, correspond à un changement de la position des États-Unis ou seulement est une voie isolée.
Est-ce que le blocus économique imposé par les États-Unis a affecté la vie à Cuba?
Oui, il a fait changer, en premier lieu, il a fait changer absolument toute la vie de Cuba. Nous avons changé notre source de ravitaillement qui se sont déplacés vers l'Europe, surtout vers les pays socialistes. Et nous avons changé toute notre vie, même les articles de luxe, les articles de consommation à long terme, on peut dire, je ne sais pas bien la parole en français. Et ça a presque disparu à Cuba. Et il y avait beaucoup de choses qui manquent. Notre industrie ont passé par une période assez longue où il n'y avait pas de pièces de rechange. Ils s'arrêtaient quelquefois. Nous ne pouvons pas le mettre en fonctionnement. Mais cette condition même a forcé notre industrialisation dans la mécanique. Et dans ce moment, nous pouvons fournir presque tout le ravitaillement essentiel de type mécanique, c'est-à-dire des pièces de rechange, par notre propre main. Et naturellement, c'est que nous ne pouvons pas acheter dans des pays socialistes ou dans d'autres pays de l'Europe. Parce qu'on doit considérer que Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique et toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Nous l'avons pu faire et depuis cette année, cette dernière année, et déjà le blocus est vraiment un échec absolu.
Mais vous êtes satisfait de la situation économique actuelle à Cuba?
Bon, jamais on ne peut pas être satisfait. Nous aspirons à beaucoup plus. Mais l'année passée a été l'année plus basse, surtout dans la première partie de l'année. où l'économie était dans le moment le plus bas. Depuis ce moment, nous avons commencé à croître notre industrie, notre agriculture. Et ça, c'est le, on peut dire, la direction générale qui suit l'économie. C'est-à-dire un amélioration progressif, soutenu, ne pas une chose merveilleuse, malheureusement, mais chaque jour, on peut voir concrètement les choses qui nous faisons. Et ça, c'est encourageant pour le peuple.
L'aide soviétique à Cuba, est-ce qu'elle vous est nécessaire?
Naturellement qu'elle est nécessaire. Je pense que l'aide de tout le peuple soit nécessaire. Si vous parlez, s'il est imprescindible, je pense que non. Mais on doit préciser bien ce qu'on appelle l'aide. Parce que toujours, il y a quelques on sait des erreurs.
Erreurs, tromperies.
Oui. Pour l'exemple, les Américains parlent de l'aide soviétique en considérant le commerce. Et nous avons un très fort commerce qui, sur une base bilatérale, d'une partie de l'autre, ça n'est pas l'aide. L'aide soviétique est quelques accords à long terme, par exemple l'accord pour la canne à sucre et les accords pour donner des entreprises industrielles complètes avec des crédits à long terme. Et ça, c'est très important pour notre développement. Et je dis l'Union soviétique, vous m'avez demandé, ou je ne sais pas si vous avez demandé l'Union soviétique exactement, le pays socialiste, non, mais c'est avec tout le pays socialiste que nous avons ce type de relation.
Mais est-ce qu'il y a encore des soldats soviétiques à Cuba?
Nous disons techniciens. Il y a, oui.
Ils vous sont nécessaires?
Ils sont notre professeur dans quelques domaines.
Dans quel domaine?
Dans le domaine de la technique supérieure de la défense. Nous avons fait tomber U2. Ça seulement l'a fait l'Union soviétique. Je crois la Chine et nous. Et naturellement, c'est une technique très, très difficile. Nous ne les dominons pas jusqu'à ce moment.
Quelle est la position de Cuba face au conflit qui oppose Moscou à Pékin?
Dans ces questions, nous les déplorons beaucoup. Nous ne parlons jusqu'à ce moment, nous ne parlons pas officiellement de ça.
Quels sont les rapports actuellement de Cuba avec le reste de l'Amérique latine?
Bon, elles sont faibles. Nous avons des relations diplomatiques avec 5 pays et nous avons des relations commerciales avec 2 ou 3 seulement, ils ne sont pas importants. Et le blocus américain s'est imposé aussi vers le pays de l'Amérique latine et je pense avec une effectivité meilleure que dans d'autres régions du monde. Et les pays américains nous ont condamnés à Punta del Este, à l'Uruguay, dans une conférence l'année 62. Nous sommes expulsés de l'Organisation des États américains. Et il y avait beaucoup de pays qui ont coupé son relation diplomatique et commerciale avec nous. Ça, c'est la situation jusqu'à ce moment.
Pensez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, en Amérique latine, des pays mûrs, prêts pour une révolution du type castriste, du type cubain?
Il y a quelqu'un où déjà il y a la lutte. Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe. Existe à Venezuela, existe au Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. Ça a passé avec nous. Nous avons lutté 2 années et il y a de longues périodes de temps où personne n'a parlé de nous.
Vous avez parlé du Venezuela et du Guatemala, mais est-ce que Cuba aide les révolutionnaires de ces pays?
Moralement seulement, ils considèrent que son lutte est juste, mais jusqu'à ce point.
La révolution serait trop longue d'expliquer tout. Et même d'expliquer tout le point de contact avec la révolution algérienne, Je pense qu'il serait un peu long, un peu difficile, un peu lourd. Je pense que la principale, la chose où nous devions mettre l'accent, c'est que la base, le fond social sont les mêmes. Le problème du colonialisme, de l'impérialisme, qui pèse sur un pays, oblige à ce pays à prendre des mesures pour lutter pour sa liberté. Et l'impérialisme, plus ou moins, prend les mêmes contre-mesures. C'est pour ça que, malgré toutes les différences qu'il y a entre les deux peuples, les régions géographiques où ils sont placés, il y a une ressemblance plus ou moins grande, au fond. Et c'est pour ça, je pense, que nous pouvons nous entendre si bien. Et je pense que l'amitié, si grande et chaque fois si profonde, qu'il y a entre notre deux peuples, il se doit précisément à que nous pouvons nous connaître très bien, connaître notre propre pensée, notre idéal, notre besoin et connaître aussi notre ennemi qui, au fond, sont communs. Et je pense que c'est là la chose importante. De ces connaissances, notre deux peuples ont extrait les conditions pour approfondir l'amitié. Et chaque fois qu'une mesure se prend à un pays ou à un autre pays, l'autre le comprend bien et est immédiatement disposé à l'appuyer parce qu'il comprend qu'il répond à des besoins profonds. Je pense que ce sont des choses qui, non seulement le peuple cubain, mais tous les peuples du monde doivent étudier et, dans quelques cas, doivent appliquer pour son guerre révolutionnaire et pour son développement après de la liberté.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.